8h44, on vous en parle depuis presque le début de cette émission. C'est l'heure de notre joute intellectuelle, mais je tiens à le préciser encore une fois, ludique, sympathique. On ne cherche pas de gagnant ni de perdant, mais on cherche quand même à s'amuser et à créer un choc entre deux items, entre deux sujets, entre deux possibilités. Aujourd'hui, dans notre chronique, êtes-vous, on vous propose bien sûr des sujets, êtes-vous davantage polar ou davantage roman historique. Alors, pour se joindre à moi dans ce ring, appelons-le intellectuel, Richard Sainte-Marie, on vous l'a présenté un peu plus tôt, auteur de polar, notamment Un ménage rouge, Repentir, L'inaveu. Monsieur Sainte-Marie, rebonjour et bienvenue.
Bonjour.
Et bienvenue
à
la première heure. Donc, on porte l'autre chapeau un peu plus tôt. C'était le chapeau de l'ancien professeur et cette fois-ci, c'est celui d'auteur. Et pour défendre, bien sûr, le coin polar,
bien sûr.
Qui est un peu votre passion, également votre gagne-pain. Et aussi, dans l'autre côté, dans le coin roman historique, Catherine Ferland, historienne, auteur et conférencière.
Bonjour.
Catherine Ferland, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à tous les deux de vous prêter à cet exercice. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui l'ont fait sur la page Facebook de Première Heure. Je me conserve quelques commentaires pour alimenter la discussion dans quelques instants. Mais tout d'abord, on établit des règles dans cette petite joute. Vous avez droit tous les deux, 1 minute, 1 minute 30. Nous serons gentils sur le chronomètre pour venir défendre votre position, venir vendre votre salade. Et le hasard fait en sorte que ça commence aujourd'hui avec Catherine Ferland.
Ah,
pour
bon,
le roman historique.
J'ai cet honneur. Attendez que j'astique mes gants de boxe.
J'ai dit hasard. J'ai dit hasard, ce n'est pas un honneur, ça.
Bon, ben c'est sûr que moi, comme historienne, ben je suis passionnée par le passé. Alors, ça va un peu de soi que le roman historique va m'interpeller beaucoup. Ceci dit, je pense que dans le roman historique, il y a des sous-genres. Puis c'est là que ça devient intéressant. On en débattait tout à l'heure avant d'entrer en onde. Est-ce que le polar historique existe? Est-ce qu'il y a d'autres variations autour du roman historique? Ben un peu oui, parce que de la même façon qu'il va y avoir des romans qui vont être un peu plus policiers, des romans de toute nature, finalement, ben dans le roman historique aussi, on va observer cette variation-là. Ce qui fait qu'on peut avoir du polar dans le roman historique. Et là, ça devient intéressant. Moi, comme historienne, j'ai pas commis encore de roman historique, mais c'est un genre, évidemment, qui m'intéresse beaucoup. Ceci dit, il y a de bons romanciers, il y en a de moins bons dans le roman historique également. On voit le degré de préparation quand on lit un roman, parce que, par exemple, quand il s'agit de faire quelque chose sur les siècles passés, il y a une préparation qui est extrêmement importante. Quelqu'un qui écrit sur le contemporain peut se permettre quand même des libertés, hein. On s'entend là-dessus. Je pense que vous serez d'accord, Guillaume, sur le fait que quand il y a un roman historique solide, on le sent, on sent cette trame-là, cette solidité-là sous les pas du romancier, parce que les faits, les grands faits, les grandes lignes vont être là. On va sentir que l'auteur sait de quoi il parle, sait où est-ce qu'il s'en va. Et après ça, il peut se permettre des libertés créatrices, artistiques, évidemment, avec les zones d'ombre de ses personnages. Mais il faut quand même qu'il y ait une bonne recherche historique qui soit faite. Vous savez, pendant longtemps, le roman historique, ça a été surtout une affaire d'hommes. Hein?
Mm-hmm,
quand on regarde ça, là, Alexandre Dumas, Maurice Druon avec ses rois maudits et tout ça. Puis même au Québec, ça a été long. On était dans le grand roman ruraliste. Ces temps-ci, on parle beaucoup des belles histoires des pays d'en haut et tout ça. On était vraiment dans cette tradition-là très masculine. Depuis quelques décennies, on a un renversement de ce genre-là, ce qui fait que de nos jours, il y a encore des messieurs qui vont s'intéresser au roman historique, Jean-Pierre Charland et tout ça. Mais depuis Arlette Cousture puis Ses filles de Caleb, il y a vraiment eu un renversement.
Ça a été un tournant, ça?
Ça a été un tournant, définitivement, dans le roman, ici au Québec, dans le roman historique. Après Les filles de Caleb, il y a eu un engouement extraordinaire chez les romancières qui se sont mises à écrire sur l'histoire du Québec. Il y a des époques qui ont été mieux couvertes que d'autres, on s'entend, mais c'est vraiment extraordinaire de voir ce renversement-là. Et ça correspond aussi au lectorat qui est largement féminin, je pense.
Alors, les gants de Catherine Ferland sont bel et bien attachés. Richard Sainte-Marie, vous venez d'entendre le plaidoyer de...
À main nue.
C'est presque ça. S'annonce comme un combat de ruelle. Richard Sainte-Marie, donc auteur de polar, je vous laisse votre minute et demie également pour défendre votre position.
Bien, dans le roman policier, il y a la question de vie et de mort à presque toutes les pages. Ça, c'est assez imbattable. Donc, être ou ne pas être, comme disait le grand William, ben c'est ça.
Comme disait l'autre.
C'est ça. Et le bien et le mal s'affrontent aussi presque à toutes les pages. Le genre policier aussi, il y a une infinité de nuances du genre. Il y a le noir, il y a le procédural, il y a le suspense, le thriller, le whodunit là, qui l'a fait. Il y a des livres qui se passent sur les criminels. Donc, les criminels sont les héros, dont d'autres sur les policiers, même des séries comme San Antonio, par exemple. Il y a des policiers vedettes. Il y a des romans policiers sur des crimes politiques. Il y a des livres romans policiers humoristiques. Moi, mes nouvelles, par exemple, sont policières sont plutôt drôles. Mais en tout cas, je sais des drôles. Il y a des romans policiers.
Ça vient de fonctionner, en tout cas.
Ouais. Ben, si ça vous fait rire, c'est déjà, ça marche. Mais il y a aussi, apparemment, il y a un genre de roman policier post-moderne. J'ai aucune idée ce que c'est, mais ça existe. Puis il y a aussi le roman policier historique. Mm-hmm. Et voilà. On va en parler tantôt. Dans le roman policier, le méchant, il est aux prises avec plusieurs sensations, pensées, émotions. La variété de nuances, regardez bien. Le méchant, il y a le désir, il y a la tentation, l'agressivité, la malfaisance, la perfidie, la perversion, la cruauté, la culpabilité, des fois, le remords, le regret, le repentir, et j'en passe. Ma feuille est quasiment pas assez grande pour tout le monde. La victime, la peur, la terreur, la douleur, mais aussi le méchant, des fois, il y a de la douleur aussi. En tout cas, la victime a le désespoir, la misère, le chagrin, le tourment, l'angoisse. Bon, du côté flic ou avocat, il y a l'intelligence du travail, il y a l'intuition, la persuasion, la conviction, l'empathie, le dévouement, la justice, l'équité, la bienveillance, la compassion, la performance d'enquêteur et la vertu. Là, on peut pas avoir...
Mais ça, c'est le mot-clé, la vertu. La vertu.
Ah, oui, dans un roman policier. Alors, vous voyez, le genre peut avoir toutes ces nuances, et même dans le même livre. Alors, pour un créateur, pour un auteur, c'est un plaisir de pouvoir jouer sur tous ces plans-là en même temps. Donc, ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Pour combattre l'historienne qui est à côté de moi... Mais...
Je vous attends.
Okay. Ça va finir.
Sent la méchanceté, la cruauté, tout ça dans les yeux de Catherine Ferland.
Oui, ils l'ont mis à deux micros plus loin parce qu'elle est dangereuse. Mais moi, je pense que je suis paresseux dans la vie. Alors, je trouve que la paresse est la mère de l'invention. Parce que quand on veut pas faire des recherches comme les historiennes en font, ou les écrivains qui écrivent des histoires historiques, si on veut pas faire la recherche à tout bout de champ et des mois de temps, ben on est obligé d'inventer, et de tout inventer. Alors, moi, j'ai la chance dans mes livres de parler juste de ce que je connais. Alors, j'ai moins de recherches à faire. Mais j'ai vu Jeanne Bourin une fois à la télévision qui disait qu'elle a travaillé deux semaines dans des livres. Il n'y avait pas Internet dans le temps. Pour trouver une recette qui pourrait servir dans un de ses livres et tout ça, ça a fait un paragraphe, deux semaines pour un paragraphe. Excusez-moi.
Oh, c'est
là.
Fou, hein?
Moi, c'est non.
Richard Sainte-Marie, votre plaidoyer était bien entendu. Mon rôle est bien sûr d'être l'avocat du diable. Et je vais commencer avec cette dernière référence par rapport au travail et à la créativité. Catherine Ferland, parfois, ce qu'on peut reprocher aux romans historiques, c'est de vouloir justement trop s'accrocher à l'histoire, de vouloir trop être précis ou... avec ce danger de créer des anachronismes et d'être de se faire taper sur les doigts par les lecteurs. Est-ce que ça peut être un peu tannant aussi pour le lecteur de voir des petites erreurs historiques se glisser à gauche et à droite?
Bien, je pense que ça dépend de la posture de l'auteur. Parce qu'il y a des romanciers historiques qui vont d'emblée établir le fait que, bon, regardez, là, ils font faire un petit paragraphe au début ou à la fin du livre pour dire, regardez, cher lecteur, ceci, c'est rigoureusement historique. Vous pourrez aller vérifier, je vous suggère telle lecture. Mais je me suis permis des libertés, par exemple, avec le personnage principal qui n'a jamais existé, mais qui vit à cette époque-là, qui se comporte, qui va être confronté à des situations de l'époque, donc qui va vraiment être un individu plus ou moins représentatif d'une époque. Il y en a d'autres qui vont se permettre d'aller du côté un peu métaphysique. Je pense, par exemple, à la célèbre série Le Chardon et le Tartan, qui va aller du côté du roman historique, mais whoop, à un moment donné, par un procédé un peu magique, on se retrouve dans une époque passée avec un personnage qui, lui, est issu de notre époque. Alors, c'est un peu le principe du voyage dans le temps. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est un autre levier, ce qui fait que la rigueur historique, à ce moment-là, le lecteur va permettre un peu, va être plus souple quant à ce qu'il va lire. Il va être un peu plus relax en se disant, OK, bon, c'est évident qu'on n'est pas dans l'histoire. Si je veux lire sur l'histoire, j'irai lire un livre d'un historien sérieux, comme Catherine Ferland, par exemple.
Donc,
vous voyez, ça, c'est intéressant. Ça permet comme ça une liberté. Alors, il y a ce côté-là un peu métaphysique. Il y a un autre phénomène aussi, moi, qui m'intéresse beaucoup. Je vous disais tantôt en entrée de jeu, je m'intéresse au rapport avec le temps et tout ça, mais il y a un type de roman très particulier qui est une sorte d'hybride, de bébite rare, si vous me permettez l'expression, entre le polar et le roman historique. Ce sont les romans uchroniques. Attendez, là, c'est un petit peu le principe du retour dans le temps à travers Vous savez, un petit peu comme la série de films Voyage, Retour vers le futur.
Oui.
Bon, c'est la prémisse que si on va changer un petit élément dans le passé...
Ça va changer le futur.
Exactement. Ah, ouais. Tout le cours du temps se retrouve changé. Alors, dans un roman chronique, je vais prendre un exemple, celui de Vic Verdier, L'Empire bleu sang, qui se passe à Québec. Ça, c'est intéressant. On est dans un Québec de 2015, mais comme si, à l'époque de la Nouvelle-France, on avait trouvé des gisements de diamants bleus dans le Cap-Diamant et que Québec était devenu une sorte de mégalopole mondiale dès le 17e siècle, imaginez. Et là, c'est toute l'évolution, mais on en serait où maintenant, 4 siècles plus tard, si ça s'était passé comme ça? Non, c'est une twist très, très intéressante.
Je me tourne vers Richard Sainte-Marie. Il y a une abondante production de polar et parmi ceux-là, il y en a beaucoup qui ne sont pas très, très bons. Est-ce que ça, c'est un petit défaut également du polar, le fait qu'il y a tellement d'auteurs et de productions qu'on peut parfois frapper, disons-le, un mot?
C'est partout. Quand j'ai publié mon premier roman, mon éditeur m'avait dit, cette année, Richard, il a sorti dans le monde francophone 68 000 titres, tout genre confondu. Alors toi, tu arrives avec ton petit livre de 200 pages et ça se peut qu'il soit pas aussi bon que les 68 000 autres, mais... Le problème du genre policier, c'est le genre policier. Il y a des trucs qu'il faut respecter. Bon, si on fait du procédural de police, il faut connaître comment ça marche dans la police. Alors, faut, à moins d'être policier,
le système juridique et tout ça.
On peut esquiver ça si on fait un roman noir, par exemple, ou un suspense où on n'a pas besoin de ces connaissances-là. En histoire, il faut les avoir parce que il y a la vérité historique. Et moi, je me place du côté, pas du lecteur, mais de l'écrivain. Il y a déjà assez d'embûches comme ça. S'il faut en plus être sûr
rajouter une couche.
Que c'est comme ça que ça se passait, que c'était de cette façon-là qu'on se
laissait
nos souliers en 1729.
Quand vous faites un roman policier, vous voulez vous assurer que l'arme qui est utilisée, c'est plausible, que ça va faire tel impact et tout ça.
Il y a quand même,
effectivement. Donc, dans le roman policier, je pense qu'il y a un certain niveau de recherche. Fait que je pense recherche. Le roman historique, il y en a, mais c'est pas la fin du monde non plus. Là.
J'espère pour eux, parce que Seigneur, moi, je ne veux pas passer mon temps à étudier, je veux écrire un livre. C'est ça le truc. Je trouve que je suis plus libre dans ma création si je n'ai pas tous ces trucs là, auxquels je ne peux pas échapper. Comme je dis, si dans mon livre, le gars lasse ses souliers, puis que à cette époque-là, il n'y avait pas de lacets aux souliers, bien là, je vais me tomber dessus.
On a un petit problème. J'ai envie de dire que le mot de la fin revient en commentaire sur notre page Facebook. C'est André Desbiens qui dit « Le polar, elle le préfère. Il ne faut pas oublier que dans ce type de roman, le lecteur est participant. On aimerait bien trouver le coupable. » Catherine Ferland, qu'est-ce que vous répondez à ça rapidement pour...
Que dans le roman historique, il peut y avoir des belles surprises aussi parce que, comme mon collègue le disait tout à l'heure, il y a aussi des polars historiques. Donc, il peut y avoir des enquêtes. Je pense à L'homme au ventre de plomb, les enquêtes de Nicolas Le Floch, qui avant d'être une série télé, c'était un roman. Écoutez, c'est fascinant. Là, on est vraiment là-dedans, mais c'est à l'époque, à Paris, un inspecteur de police, puis il y a des meurtres et tout ça. Donc, oui, je pense que c'est quand même possible d'être partie prenante, d'entrer complètement dans l'action, même si cette action-là se situe il y a plusieurs siècles.
Alors clairement, il y a un terrain d'entente qui se trouve à mi-chemin entre vous deux avec ce polar historique ou ce roman historique policier. Bref, appelez-le comme vous voulez. Richard Sainte-Marie, auteur de Polar, et Catherine Ferland, historienne, auteure et conférencière. Merci beaucoup de vous être appuyé
à
l'exercice. Et d'ailleurs, la discussion se poursuit sur la page Facebook de Première Heure. On essaiera de lire quelques commentaires demain matin pour clore le dossier. Merci à tous les deux et passez une excellente journée.
Merci.